Bonjour. Alors aujourd'hui, dans plusieurs églises, c'est un culte un peu spécial. Je tiens quand même à le dire avant de commencer cette prédication. Dans plusieurs églises, aujourd'hui, il est organisé un culte Michée France. C'est comme la journée du sel, mais cette fois, c'est pour l'association Michée France. En fait, c'est une association qui œuvre pour mobiliser les protestants, et notamment les évangéliques, à lutter contre la pauvreté et contre les injustices. Et c'est une association qui donne les moyens à ces évangéliques d'interpeller les personnes politiques. Donc c'est vraiment une association qui a pour but le plaidoyer. Alors, je connais parce qu'en fait, Michée France est hébergé par le SEL, donc où je travaille. Et chaque année, cette association propose un culte à la date la plus proche du 17 octobre, qui est la Journée internationale de lutte contre la pauvreté. Et donc, dans ce cadre-là, je voulais vous proposer la prédication que Michée propose et qui est tirée d'une prédication de Tim Keller. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Une prédication sur l'accueil généreux, l'hospitalité. En général, le terme générosité nous évoque des dons financiers. On pense générosité, on pense argent. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La Bible présente la générosité comme une façon profondément désintéressée et altruiste de vivre chaque domaine de notre vie. Il est possible d'être généreux avec son argent sans avoir un cœur généreux. En fait, au-delà de nos finances, il y a plusieurs moyens, beaucoup d'autres moyens même, de pouvoir être généreux. Un domaine qui est souvent sous-estimé, c'est l'accueil ou l'hospitalité. Ce passage que vient de nous lire Clément nous parle d'invités, mais pas seulement, il nous parle des hôtes et de fêtes. Alors, au premier paragraphe, on voit que Jésus, il va plutôt parler aux invités du banquet. Puis, il va parler à l'hôte. Et enfin, il va nous parler à nous, personnellement. Chacune de ces trois parties aborde les sujets suivants. Pour les invités, ça sera le cercle intime. Pour l'hôte, ça sera la maison ouverte. Et pour nous, ça sera la fête des pauvres. Le cercle intime, la maison ouverte, la fête des pauvres. Qu'est-ce que ces trois sujets ont en commun? Alors, je vais reprendre le texte. Il adressa ensuite une parabole aux invités. En voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, il leur dit « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut !» Alors, tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Jésus parle d'une situation commune qui, nous, à notre époque, aujourd'hui, va pas forcément nous marquer plus que ça, parce que on vit plus exactement les choses de la même manière. Mais autrefois, lorsque les gens allaient à une fête, ils étaient assis en fonction de leur relation avec l'hôte. L'hôte avait, bien entendu, la place d'honneur. C'est lui qui invitait. Et puis, en fonction de comment tu connaissais l'autre, de ta relation intime ou pas avec lui, tu étais placé plus ou moins proche de lui. C'était juste une question de protocole. Il fallait toujours choisir un siège plus éloigné de l'autre, parce que c'était un peu difficile de jauger où est-ce que tu pouvais t'asseoir, s'il n'y aurait pas quelqu'un de plus important ou de plus intime que toi qui arriverait. Donc la règle, c'était toujours de s'asseoir au plus loin de l'autre, et si besoin, lui, il viendrait nous demander de nous rapprocher. Ça nous ferait honneur. Comme il fallait deviner, valait mieux être assis loin, parce que si jamais quelqu'un de plus important arrivait, bah l'autre il serait obligé de venir nous voir en disant « Excuse-moi, mais tu peux aller plus loin ?» Et là, c'est vraiment gênant devant tout le monde. Ce que Jésus dit là, tout le monde le savait. Et il l'utilise pour illustrer le principe du verset 11. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Ce principe parcourt toute la Bible. C'est étrange parce que ce principe, j'ai l'impression qu'on ne l'utilise plus forcément dans notre monde actuel. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. On est dans une culture où on se bat plutôt pour être élevé, plutôt que pour s'abaisser, pour être le meilleur, le plus apprécié, être bien vu, et parfois ça peut, dans notre monde, aller jusqu'à rabaisser la personne à côté de soi. On est complètement, enfin, ce que Jésus dit là est complètement à contre-courant. Jésus dit, si vous vous humiliez, vous serez élevé. Si vous vous élevez, vous serez humilié. C'est vrai de notre relation avec Dieu, et c'est aussi vrai de nos relations entre nous. Il y a un désir de l'être humain de faire partie d'un cercle intime, de faire partie d'un cercle de personnes proches, des personnes dont on aimerait avoir l'amitié. C'est un des moteurs les plus puissants et des plus permanents de l'action humaine. C.S. Lewis, auteur chrétien, dit une chose un peu, juste. À moins de ne surpasser votre peur d'être un outsider, vous continuerez à être un outsider. À moins de ne surpasser votre peur d'être un outsider, vous continuerez à être un outsider. En fait, ce qu'il veut dire, c'est plus notre motivation à entrer en relation avec quelqu'un va être liée à notre recherche d'être aimé, d'être approuvé, d'être accepté, plus on va rentrer dans une relation pour nous affirmer nous-mêmes, moins on va être susceptible d'obtenir cette approbation, cet amour, cette appréciation qu'on cherche. Pire, ça peut même être une source de rejet. Par contre, si on entre dans une relation sans chercher à en ressortir quelque chose, juste parce qu'on aime les gens, juste parce que on a envie de faire des choses pour les gens, juste parce qu'on a envie de servir les autres, sans rien attendre en retour, sans chercher leur approbation, sans chercher leur acceptation, là, c'est là où on sera le plus susceptible d'être aimé et d'être accepté. Ceux qui s'élèvent seront abaissés, et ceux qui s'abaissent seront élevés. Si nous avons peur d'être un intrus, un outsider, un marginal, quelqu'un en dehors du cercle intime, si cette peur nous guide, on restera toujours un intrus. C'est intéressant. Ça nous interroge sur la manière dont on a d'entrer en interaction avec les autres. Quand j'entre en interaction avec quelqu'un, quand je veux devenir ami avec quelqu'un, est-ce que je cherche d'abord son approbation ? Est-ce que c'est parce que j'ai un grand besoin d'être accepté ? Posons-nous la question. Dans quelle mesure ça joue un rôle dans mes relations ? Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre la pareille. » En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Donc après s'être adressé aux invités, Jésus s'adresse maintenant à l'hôte, celui qui accueille. Ces paroles peuvent sembler un peu bizarres. N'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour. Là encore, c'est important de resituer dans le contexte. La société dans laquelle Jésus vivait était une société hiérarchique. Et en fait, le seul moyen de pouvoir entreprendre quelque chose, c'était de connaître la personne qui était bien placée. Du coup, ça ne vous étonnera pas, on essayait de nouer des relations avec des personnes haut placées. Et inversement, les personnes qui étaient bien placées essayer d'entretenir des bonnes relations avec des personnes de classe inférieure pour, justement, servir un peu leurs intérêts. Pour qu'elles leur fassent des faveurs, leur ouvrent des portes, ou bien puissent les soutenir, augmenter leur réputation dans la ville. Il y avait un échange comme ça. Alors, comment ce système se développait ? Comment ces alliances se créaient ? À travers l'hospitalité, en invitant les gens à la maison. On les invitait et ils nous rendaient la pareille en nous invitant à leur tour. Autant que possible, il fallait donc inviter les bonnes personnes, des vendeurs, des acheteurs, des fournisseurs. Il fallait inviter toutes ces personnes chez soi. C'est ce qui faisait un peu le réseautage. Mais si on regarde un peu plus près, ça fait que l'hospitalité n'était exercée que par intérêt. Chacun avait à gagner quelque chose. C'était pas parce que « Oh, il est cool, lui, je vais l'inviter, il est sympa, j'ai envie d'être ami avec, etc. » pour ce qu'il est. Non, c'est « Je l'invite parce qu'il peut me servir. » Vous ne serez donc pas étonnés que Jésus rejette complètement ce système et qu'il le dénonce ici. Et il va le faire de manière étrange. Il va dire de ne pas inviter de frères, d'amis, de parents, de voisins riches. Et là, on se dit, alors ok, donc je suis plus censée inviter tout ce monde-là ? En fait, c'est une exagération. Tout comme quand Jésus dit qu'il faut qu'on haïsse père et mère pour le suivre. C'est une exagération, comme quand un frère ou une sœur se dispute à la maison, qu'ils sont vraiment énervés l'un contre l'autre, et puis il y en a un qui va sortir « Je vais te tuer !» Si on assiste à cette scène, on va pas se mettre à appeler la police. On va pas prendre cette expression littéralement. On va comprendre que, en fait, ils sont juste en colère l'un contre l'autre. C'est une façon de dire. Pareil, ici, la manière dont Jésus s'adresse est une façon de parler. Pour dire, pas pour dire qu'en fait c'est fini, On ne doit plus jamais inviter d'amis ou de famille à la maison, enfin vous imaginez. Je deviens chrétienne et j'envoie un mail à toutes mes relations, un mail qui ressemblerait à ça. « Hey, je viens de me convertir, wouhou !» Donc je suis devenue chrétienne et puis du coup à partir de maintenant, bah je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne pourras plus jamais venir chez moi. En fait, j'essaie d'obéir à Luc 14 et Luc 14 dit que je dois plus t'inviter. Donc voilà, je suis désolée, c'était cool de te connaître. Allez, un bisou, bonne soirée. Ce que Jésus nous encourage à faire, c'est de préférer inviter chez nous des personnes qui ne peuvent pas nous le rendre. En gros, d'accueillir de manière désintéressée. De ne pas attendre des personnes qu'on va accueillir qu'elles nous le rendent un jour. Si elles nous le rendent un jour, tant mieux. Si elles nous le rendent pas, c'est pas grave, on leur a fait avec plaisir, avec amour, pour leur donner de la considération. En fait, ce qu'il nous demande, c'est d'accueillir simplement pour aimer, pour montrer notre amour, de pratiquer un accueil généreux. L'accueil généreux, selon l'Évangile, qu'est-ce que c'est ? L'accueil généreux, ça va être de recevoir des gens dans notre espace de vie, chez nous, dans notre foyer qu'on a construit, là où on est bien, là où on se sent en sécurité. L'accueil généreux, ça va être de traiter des étrangers comme de la famille. Et certaines personnes qu'on accueillera finiront peut-être par devenir des amis, des vrais amis. Grâce à l'accueil généreux, on a de fortes chances de rencontrer des gens qui véhiculent la grâce de Dieu dans notre vie. Ça serait dommage de s'en priver quand même. Alors, aujourd'hui, dans notre quotidien, comment on peut nous mettre en marche? Comment on peut appliquer concrètement dans notre vie cet accueil généreux? J'ai noté quelques idées. Peut-être que dans ces idées, vous allez vous y retrouver et vous les faites déjà. Peut-être que ça peut être une idée à mettre en place. Déjà, une manière d'accueillir serait tout simplement d'inviter nos voisins et nos collègues chez nous. Pour l'apéro, pour un repas, une soirée jeu, les filles invitent dressing. Si on vient d'emménager, la crémaillère peut être une bonne occasion de pouvoir inviter toutes ces personnes. Ton collègue que tu vois tous les jours, « Hey, t'as vu l'appart dont je t'ai parlé depuis au moins je sais pas combien de mois ?» Allez, viens, je t'invite, on va faire un apéro et puis tu vas enfin venir chez moi. Ça peut être le bon moyen de tisser des relations plus intimes avec les personnes. Et puis peut-être qu'au fil du temps, on va s'apercevoir que Dieu commence à créer une connexion inhabituelle entre nous. Ces personnes sont peut-être pas chrétiennes et peut-être qu'on pourra leur proposer au fur et à mesure, de venir avec nous à l'église. Mais attention, ne les invitons pas à la maison dans le seul but de les faire venir ensuite à l'église. On manquerait notre mission principale, les aimer sans intérêt. Une autre idée, ça serait de nous inviter les uns les autres. Qui est-ce qu'on connaît le moins dans l'église ? En général, on invite ses amis, ceux avec qui on est le plus proche. Mais qui est-ce qu'on connaît le moins ? S'inviter les uns les autres dans l'église, ça peut être un moyen d'en savoir plus, d'apprendre à mieux nous connaître dans l'église, d'apprendre à mieux nous aimer. Ceux qui sont chrétiens depuis plus longtemps peuvent inviter ceux qui sont chrétiens depuis moins longtemps. Ceux qui sont dans l'église depuis plus longtemps peuvent inviter ceux qui sont dans l'église depuis moins longtemps. Ceux qui font bien la cuisine peuvent inviter ceux qui savent à peine se faire cuire des pâtes, etc., etc. Et puis, accueillir un groupe de maison, c'est aussi de l'accueil généreux. Je pense que tous ceux qui vont à un groupe de maison se reconnaîtront. Mais moi, chaque jeudi, je bénéficie de cet accueil généreux. Et je pense que pour celui qui accueille ce groupe de maison, c'est aussi une bénédiction. Vous n'avez pas de groupe de maison, bah n'hésitez pas à en rejoindre un. Je ne vais pas faire la pub, mais quand même. On peut être bénévole dans une action sociale, on peut être bénévole dans une association, on peut mettre en place des idées pour accueillir les personnes de la ville dans notre église. On peut être volontaire pour faire partie de l'équipe d'accueil le dimanche. Clémente disait, juste avant le culte, me partageait ce qu'il avait reçu à sa réunion d'hier sur l'évangélisation, c'est ça ? Et il y avait une idée qui était ressortie. Ça serait de se forcer à l'église à prendre 5 minutes à la fin du culte pour aller voir les personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Se forcer à se prendre ces 5 minutes et pas aller tout de suite filer vers ceux avec qui on a plus d'affinité, ce qu'on fait tous très bien naturellement, mais plus aller vers ces personnes qu'on ne connaît pas. Et si chacun de nous le fait, et pas que l'équipe d'accueil, mais qu'est-ce que ça va être une église vivante? Qu'est-ce que ça va être beau à voir? Qu'est-ce que les gens vont se sentir accueillis? Et puis enfin, un truc tout basique, mais quand on arrive à l'église, quand on arrive au culte, saluons-nous. Alors oui, ça, on le fait, on se dit bonjour, ça va? Mais je parle de se saluer vraiment, de s'accueillir les uns les autres vraiment. Et est-ce qu'on prend ce temps pour le faire? Est-ce qu'on prend ce temps pour regarder l'autre dans les yeux et lui dire « Comment s'est passée ta semaine ?» et attendre une réponse sincère. « Comment tu vas en ce moment ?» et montrer que on est sincère dans notre question et qu'on attend de l'autre qu'il puisse se livrer s'il a envie. Qu'on prenne le temps de s'accueillir, de se montrer qu'on s'aime les uns les autres. Prenons le temps de prendre des vraies nouvelles et d'écouter la réponse. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Jésus lui répondit. Un homme organisa un grand festin et il invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt !» Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « Ah, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Hé, je viens de me marier. Excuse-moi, hein, je t'en prie. » À son retour, le serviteur rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, en colère, dit à ton serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer. » afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Dans cette dernière partie, Jésus explique à quoi ressemble l'accueil de Dieu envers nous à travers une parabole. au travers d'une parabole. Quelqu'un dit au verset 15, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ce repas, c'est la fête ultime, genre « the big party ». C'est genre la fête où tout le monde veut aller. La fête à ne pas manquer. Dieu met la table et invite tout le monde à sa fête. Jésus répond en disant, « Bah tiens, puisque tu abordes le sujet, parlons de ceux qui seront à cette fête ultime. » Et il raconte une histoire, celle d'un homme qui prépare un banquet. Qui représente cet homme ? C'est Dieu. Puisque la parabole de Jésus répond au verset 15. Et Dieu invite beaucoup, beaucoup de monde. Mais ils ne viennent pas. Qui sont ces personnes ? Ce sont celles qui ont du succès. Celles qui sont heureuses, qui ont beaucoup accompli. L'un vient d'acheter un champ, un autre 5 paires de bœufs, un autre vient de se marier. C'est super pour eux, vraiment, sincèrement. Mais parce que ces personnes sont trop heureuses, sont bien trop confortables dans leur vie, qu'elles accomplissent beaucoup de choses, elles sont trop occupées pour Dieu. Elles sont trop distraites. Trop occupés pour aller à la fête ultime préparée par Dieu. Alors du coup, qui vient ? Il dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Il ne dit pas « invite-les », il dit « amène-les ». Savez-vous pourquoi il ne dit pas « invite-les » ? Parce qu'il n'aurait jamais pu répondre à l'invitation. Il n'aurait jamais pu accepter cette invitation. À cette époque, le seul moyen d'accepter une invitation, c'était de pouvoir rendre la pareille. Jamais ces personnes pauvres, estropiées, aveugles ou boiteuses n'auraient pu dire « Je vais chez toi » à moins de pouvoir dire « Puis ce sera toi qui viendras chez moi. » C'est pourquoi il dit « Amène-les ». Plus loin, il dit même « Oblige-les à entrer ». Alors, qui sont ces gens dans les rues ? Ce sont des personnes qui n'ont pas de foyer, des sans-abri. Ils n'ont pas de bœufs, pas de champs, pas de maison, ils ne sont pas mariés, ils sont pauvres, estropiés, aveugles, boiteux. Alors Jésus dit, vous les amenez, parce que c'est eux qui vont manger mon festin. Des sans-abri. C'est ce que nous sommes. Une bande de bras cassés, qui ne méritent même pas l'accueil de Dieu, qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. Et pourtant, Dieu nous invite à son festin. Non, pardon, il ne nous invite pas, il nous oblige à venir à son festin. Alors, qu'est-ce que cette parabole va nous apprendre de l'accueil de Dieu envers nous ? 3 choses. Première chose, Dieu offre un foyer à ceux qui n'en ont pas. Le foyer, c'est ce lieu où on se sent bien. Mais c'est pas que ce lieu où on se sent bien, où on recharge nos batteries. C'est aussi un lieu où nos blessures vont guérir. Où tous nos désirs les plus profonds vont être comblés. Le vrai foyer. Le foyer idéal, c'est un lieu de beauté absolue, c'est un lieu de chaleur absolue, de réconfort absolu, de consolation absolue. Toute personne recherche un foyer comme ça. Je recherche un foyer comme ça. Sauf qu'aucun foyer terrestre sur cette terre ne peut nous apporter ça. Ce côté absolu. Même si on se donnait tout le mal du monde à essayer de construire le foyer de nos rêves, on serait jamais pleinement satisfait. Et on aurait en plus dépensé beaucoup d'énergie pour le faire. Le royaume de Dieu, c'est le seul foyer dont on a besoin. C'est le seul foyer qu'on recherche finalement instinctivement, qu'on en soit conscient ou pas. Et Dieu nous offre ce foyer. Deuxième chose qu'on apprend de cette parabole, c'est que seuls les pauvres en esprit y vont. Alors là, en l'occurrence, dans notre texte, c'est seuls les pauvres y vont. Mais dans Matthieu 5, je vais reprendre le verset, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Quand on parle du salut de Dieu, il y a deux catégories de personnes, deux types de personnes. Il y a les pauvres en esprit et il y a les classes moyennes en esprit. La personne de classe moyenne en esprit va plutôt dire « Ok, Dieu, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas horrible non plus. Je sais que je ne mérite pas tout, je mérite certaines choses, mais pour le reste, j'ai besoin de ton aide. » Ça, c'est la classe moyenne en esprit qui parle. Le pauvre en esprit, lui, il dira plutôt « Seigneur, j'ai fait des choses mauvaises. J'ai aussi fait des choses bonnes, mais même ces choses bonnes étaient pour de mauvaises raisons. Même mes bonnes actions étaient des façons de contrôler, de faire que je me sente bien, de prouver qui je suis. » Dieu, sois miséricordieux envers moi. J'ai besoin d'une grâce absolue. Notre passage dans Luc laisse entendre que beaucoup de gens pauvres sont pauvres en esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont échoué et qu'ils le savent. Et nous, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à leur ressembler. Nous sommes sauvés si nous sommes pauvres en esprit, si nous venons à Dieu comme des pauvres en esprit qui ont échoué et qui le savent. Seules ces personnes-là peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ces personnes-là qui ne vont pas chercher à être leur propre sauveur et seigneur. Mais c'est ces personnes-là qui vont laisser Dieu être leur sauveur et seigneur. On a beau être chrétien depuis un bon moment, on n'échappe pas à la règle. Nous sommes amenés à constamment revoir la manière dont on s'approche de Dieu. Comme des pauvres en esprit ou comme des classes moyennes en esprit. Troisième chose, cette fête est gratuite. Ce festin est offert. Comment Dieu a-t-il pu donner tout ça gratuitement? Comment le salut peut être gratuit? Parce que mes frères et sœurs, que ça s'applique à Dieu ou à nous, l'accueil généreux, c'est coûteux. L'accueil généreux, c'est coûteux. Jésus-Christ était dans le cercle intime le plus important de l'histoire. Et il était dans la plus grande fête de l'histoire, qui s'appelle la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, s'aimant les uns les autres, se glorifiant les uns les autres, déversant l'amour, la joie, la gloire dans le cœur les uns des autres de toute éternité. C'est la fête ultime, c'est le foyer ultime, c'est le cercle intime ultime. Et pourtant, Jésus a quitté ça et il est venu sur terre. Et il n'est pas venu en tant qu'acheteur d'un champ, qu'en tant que propriétaire de bœufs, ni en tant qu'homme marié. Il est venu en tant que sans-abri. Il est né dans une mangeoire, pas dans un foyer. Il a été crucifié à l'extérieur de la ville, pas dans un foyer. Pendant son ministère, il a vécu chez les uns et les autres, se déplaçant et prêchant sur les places et dans les rues de la ville. Pourquoi ? Parce qu'il payait pour nos péchés. Il payait pour nos péchés. Ça signifie que l'accueil est toujours coûteux. La seule manière pour nous d'entrer dans le foyer divin, le seul moyen d'être amené à la table de Dieu, c'était que Jésus soit rejeté. Toute hospitalité a un coût. Ça fait mal, mais l'accueil généreux de Jésus a été le plus coûteux de l'histoire, mais aussi le plus total de l'histoire. Il a quitté son foyer pour que nous puissions entrer dans le foyer de Dieu. Est-ce qu'on réalise ça ? Jésus a quitté son foyer pour que nous puissions entrer dans le foyer de Dieu. Et ça signifie que parce que Jésus était le sans-foyer ultime, maintenant, il est l'hôte ultime. Dans Jean 2, Jésus change l'eau en vin pendant des noces. Pourquoi ? Il dit « Je suis le maître de cérémonie ultime ». Dans Jean 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'un hôte fait. Il est l'hôte ultime. Et dans Jean 14, verset 2, il dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Je vais vous préparer une place. L'accueil généreux et total de Jésus nous fait entrer dans cette fête où toutes les blessures seront guéries. Mes frères et sœurs, nous sommes en route vers ce banquet. Alors, accueillons, sans s'inquiéter d'avoir le foyer le plus parfait. Accueillons comme nous avons été accueillis. Accueillons généreusement et simplement. Faisons entrer d'autres personnes dans notre espace de vie. Faisons pour d'autres personnes ce que Jésus a fait pour nous et attendons-nous à avoir de belles surprises. J'aimerais qu'on puisse juste passer chacun un temps de silence pour méditer sur cette parole et je conclurai par la prière. combien nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné ce défi si exceptionnel, si inhabituel. C'est pas juste divertissant ou amusant, mais c'est ce que t'as fait pour nous. Seigneur, nous te prions pour que tu nous transformes au plus profond de notre intérieur. Que tu fasses de notre Église une communauté différente, une communauté généreuse, une communauté à laquelle il est bon d'appartenir. Aide-nous, Seigneur, dans tous ces projets. Aide-nous, Seigneur, à être ainsi, à agir ainsi et à expérimenter tout ça. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.